68 ans, le 19 janvier à Roquebrune, Cap-Martin. Mireille, 54 ans, le 23 janvier à Toulon. Bref, des vies cassées, des vies brisées, tout ce qu'on n'espère pas pour soi. On souhaite ne pas être là-dedans. Pourquoi tu as été là-dedans? Pourquoi?
Alors,
et alors, c'est par moi, quoi.
Oui, oui.
C'est la liste et un homme inondé en mars. Un homme non identifié, 30 ans environ, le 10 mars à Marseille.
Lyon, oui. 30 ans, voilà.
En avril, Olivier Pierrot, 53 ans à Paris. Enfin, la liste est très, très, très...
Quand la moyenne, c'est 49, hein, t'as dit, hein,
rapport. Oui.
Oh là là, ouais, ouais. Alors, la femme qui témoigne, elle dit, à la rue, la femme est une proie, corps volé en échange d'un toit, la honte, à 21 ans, tendre la main et subir le regard de son prochain, ceux qui t'ignorent comme si tu faisais partie du paysage, ceux qui te flagellent, t'as qu'à travailler, espèce de feignante, évidemment, reçoivent toutes sortes de...
Mais on les ignore parce qu'ils font partie du paysage, mais que veux-tu qu'on fasse?
Ah oui, oui.
C'est ça le truc, c'est... Je veux bien...
Je ne suis pas tout à fait... Moi, ce n'est pas l'ignorance, je passe devant...
Moi, ça ne m'est pas indifférent, ça me fait mal au cœur à chaque fois, mais que veux-tu que je fasse, quoi?
Je passe régulièrement, chaque jour pratiquement, devant des gens qui sont là, ou font la manche, ou se contentent d'être là en attendant quelque chose, disons. Et à chaque fois, je suis un peu gêné.
Oui, puis tu es conscient que ce n'est pas en donnant une simple pièce que tu vas les sortir de leur misère, quoi. Oui. Trouver un...
La liste est horrible.
Parce que, nourriture.
Parce que la croix publie cette liste et je l'ai sous les yeux. Elle est juste horrible.
Je vois quelquefois des gens qui se mettent à bavarder avec eux. Bon, c'est sympa. Moi, j'ai pas le courage. Peut-être c'est sympa. Je trouve ça sympa. Je sais pas si c'est sympa. Je sais pas quelle est la relation qu'on peut avoir avec eux, vu qu'ils sont désociabilisés. Je me vois pas engager une conversation avec. Qu'est-ce que je vais être paternaliste tout de suite? Qu'est-ce que je vais raconter pour me mettre?
Voilà, surtout, tu peux pas leur offrir
dire
quelque chose
d'égal à égal.
Salvateur.
Mais je fais comment?
Oui.
Pour le mois de septembre, on a plusieurs personnes non identifiées. Un homme, le 5 septembre, à Gentilly. C'est-à-dire qu'on n'a même pas fait l'autopsie, on ne sait même pas qui c'est. Une personne, le 6 septembre, à Nantes. Puis, un homme, le 6 septembre, à Nice. C'est-à-dire qu'on a des rapports. Les gens qui récoltent ces informations ont des rapports certainement de la police ou des pompiers ou du SAMU. Et il n'y a pas d'autopsie, il n'y a même pas de... Il y a à peine un rapport qui est fait pour dire que telle personne, on ne sait même pas qui c'est. Et quand il y a une personne le 6 septembre à Nantes, on ne sait même pas si c'est un homme ou une femme.
Puis il y a des gens qui tombent dans... Bon, il y a un tas de raisons pour lesquelles les gens sont à la rue.
Le corps doit déjà être abîmé au point qu'on ne sait même pas. Il n'y a aucun papier sur lui, rien qui peut l'identifier. Et il n'y a pas de... c'est absolument terrifiant, quoi. Tu disais, Yves...
J'ai entamé, donc je peux en parler, mais... J'hésitais un petit peu. J'ai pris un appartement un jour et j'ai su ensuite que cet appartement avait été occupé par un mec qui avait une profession tout à fait normale et du jour au lendemain, il avait décidé de devenir clochard. C'est les mots qu'on employait, clochard,
oui, oui,
à l'époque.
Oui, 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 exactement.
Ah, ça n'existe plus maintenant, ce terme.
Et ça m'a bouleversé. Je me suis dit, mais comment ça se fait? Le mec, il avait une profession... sans aucun problème, on trouve de la main d'œuvre. Il n'y a aucun problème de chômage dans ce genre de profession qui a trait aux professions de boucherie, disons. Et je connais pas la vie. Il ne se réduit pas à son métier. Mais le mec a quitté son appartement et est devenu clochard. Donc je me dis depuis, c'était il y a assez longtemps, ça fait une quarantaine d'années, je me dis depuis... Si ça peut arriver à quelqu'un, ça peut m'arriver à moi, ça peut arriver à n'importe qui. Il peut y avoir un choc, quelque chose qui, qui fait que brusquement on n'a plus envie, on se retrouve clochard.
Il y a un...
Mais ce n'est pas le cas, je crois, des nombreux clochards qui sont actuellement dans Paris.
Non.
C'est un... Et peut-être le mot clochard était adapté à une époque et peut-être plus adapté à ce qui se passe là.
Il y a un Henrik, 54 ans, décédé le 15 septembre à Melun, 2022.
Oui, oui.
C'est pas moi.
Mais oui, 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 oui.
Enfin bref, voilà, la liste est extrêmement longue. Elle est, elle essaye d'être détaillée. Il y a des gens de toute provenance. Il y a un Kirill. Kirill, c'est un prénom russe. Il y a Panzou. Il y a des gens sans nom.
Cyril, c'est le nom d'un...
Kirill.
Kirill.
Alors, celle qui témoigne, elle fait mention que ces gens, souvent, sont étiquetés quand même. Étiquetés bureau d'aide sociale. Voilà, virgule, marginal.
Marginaux.
Ils sont classés comme des marginaux, voilà, oui.
Il y a des gens très jeunes, hein.
Oui.
En dehors de l'arc social.
Alors, elle dit, chaque année, le collectif, celle qui écrit l'article, Hélène Hernandez, écrit chaque année, le collectif publie un rapport. Ainsi, le 27 octobre 23, hein, c'est récent aussi, le 11e rapport sur la mortalité des personnes sans chez soi en France pour l'année 2022 est paru. C'est ce que tu viens de nous lire en grande partie, sans doute, Henrik. Hein. Voilà, en lien avec l'Observatoire national des pauvretés et de l'exclusion sociale, ça s'appelle l'ONPES. Avec la Fondation de France, ces rapports visent à mieux témoigner et mieux dénombrer les décès de personnes de la rue.
Mmh.
SDF. Mieux connaître cette réalité peut permettre de tenter de la prévenir. Mieux comprendre pour mieux agir. Donner des préconisations. Un accord avec la Direction Générale de la Cohésion Sociale, la DGCS. Donne des moyens de travailler avec... avec une épidémiologiste afin d'améliorer le travail de recueil, d'améliorer aussi l'aspect quantitatif en élargissant le réseau des associations, des institutions concernées, afin qu'elles transmettent des informations et améliorer l'aspect qualitatif en recherchant les données concernant le parcours de la personne au niveau social, au niveau professionnel, santé, etc.
Mais je pense que les moyens ne sont pas suffisants.
Bah oui, parce que les rapports dont tu as parlé...
S'il y a autant de morts, c'est que
bah oui, oui.
Il
n'y
a pas suffisamment de surveillance et qu'il n'y a pas suffisamment... La société est dans l'incapacité...
De surveillance ou d'accueil.
De surveillance, d'accueil, de récupération de ces gens. Là, je vois, il y a une certaine Yuma, 29 ans, en novembre à Paris. Fatima, 59 ans, le 1er novembre à Noyon. Malika, 54 ans, le 5 novembre à Puteau. Wojciech, 57 ans, toujours à Paris le 7 en novembre.
T'imagines, oui, tout ce que tu annonces là. Ils disent, malgré les nombreuses actions bénévoles pour sortir de l'anonymat toutes les personnes mortes, hein, c'est fini pour elles, donc de la rue, il n'en demeure pas moins que les centaines de morts par an, silenciers, ils les appellent. Hein, bah oui. C'est un nouveau mot. Mais
silenciers, c'est entre silencieux et ferme ta gueule. Quoi.
Oui, oui.
Enfin,
c'est un vrai scandale.
Je ne parle plus.
Oui. Donc c'est un vrai scandale de plus dans un pays qui s'affirme pays des droits de l'homme et qui affiche de larges richesses non pas partagées entre tous et toutes. La conquête du pain revendiquée par Kropotkine, Pierre Kropotkine, hein, eh bien, reste toujours d'actualité, et celle de la réquisition des logements vides aussi. Qui peut encore rêver à Noël? Et puis là, effectivement, Salut. Hélène, elle aurait pu mettre, en plus, dans un pays qui est en train, dans peu de temps, eh bien, de s'ouvrir pour organiser des jeux mondiaux. Quoi, des jeux...
Ouais, enfin, Lupin, les CRS, ils en donnent quand même à un certain moment. Quoi.
Voilà, oui, oui.
Je fais un peu de mauvais humour. Bon.
Voilà. Cet extrait du Monde Libertaire
Oui, mais sur la base de... des articles que vient de nous lire aussi Henrik dans le internet.
La liste, la liste complète et dans le journal La Croix.
Ah d'accord.
Oui. Le journal chrétien. Je suis désolé. Hein.
Catholique.
Catholique. Là, pour le coup, c'est eux qui recensent tous les gens.
Oui.
Vraiment tous les gens. Et c'est assez terrifiant, quoi.
Oui,
c'est
oui.
terrifiant. C'est waouh. Ben bravo, on a réussi à plomber l'émission.
Et ben voilà, donc on est parti vers les Jeux Olympiques. On va dépenser des sommes, comme ils disent, comme elle dit Hélène, les sommes ne sont pas. Il y a de l'argent hein, partout d'ailleurs. C'est toujours pour les mêmes qu'on dit qu'il n'y a plus d'argent et puis qu'il faut augmenter les prix, etc. Et il y a quand même des voitures qui tournent régulièrement là, partout, qui voient tout ça d'ailleurs. C'est des voitures de compagnies privées souvent et bien qui prélèvent de l'argent, quoi. C'est l'octroi sur la ville de Paris.
Certains n'ont même pas de nom. Parce qu'ils n'ont pas de papier sur eux.
Et voilà, tu te rends compte.
Et donc, les autorités ne s'emmerdent même pas à retrouver qui c'est. On ne sait pas qui c'est. Il n'y a pas de test ADN. Pourquoi faire? On s'en fout. De toute façon, ça serait vraiment trop compliqué, etc., etc. Quoi.
Oui.
Bon. Allez, un peu de musique joyeuse, parce que là, c'est un peu la fin du monde.
Allons-y.
Hey, mom, meri mom.
Radio Libertaire. Radio Libertaire. Ça te secoue ce soir, Radio Libertaire. Ça te secoue ce soir, Radio Libertaire, le 89.4.
Oui, oui.
Oui.
Et la discussion continuait.
Yves est consterné.
Pourquoi consterné ?
Je ne sais pas, tu te prends la tête dans les mains, là.
Non, c'est parce que je suis assis, faut pas que je fasse ça.
Non, parce que entre la tête et les mains, il y avait un casque. Hein.
Donc j'ai tenu de me sentir, de rester assis. Les élèves du pays obligés de rester coincés sur leur chaise pendant des heures en écoutant.
Mais jouer du tambourin, ça. Prof, t'aimes bien jouer du tambourin ou non?
Non,
ou...
pas du tout. C'est juste là. Bon, je sais pas. Non.
C'est d'une tristesse absolue.
C'est
notre monde est composé de ça. Nous-mêmes, on ne sait pas quoi faire.
Tu parlais des conditions de travail éventuellement, Yves.
Ah oui, il y a plein de sujets.
J'ai effectivement mardi 12 dans Le Monde, j'ai repéré deux pages sur les conditions de travail, un titre dans Le Monde qui est le conditions de travail de point le grand dérapage. Ah. Et il sous-titre les Français sont nombreux à souffrir dans leur vie professionnelle. Le chantage à l'emploi, les réorganisations, le retour extrême à la sous-traitance et le management par le numérique ont mis en tension des salariés fragilisés par les crises. Alors en gros, ils décrivent une situation avec des managers tiraillés entre le téléphone, la messagerie WhatsApp, les réunions en visioconférence, la gestion des salariés à distance, la préparation des rendez-vous de 13 heures, les intérimaires qui arrivent sur un chantier sans connaître l'identité réelle de l'employeur, des préparateurs de commandes guidés par une oreillette et gérés par un algorithme. Bref, il y a une tension dans le monde du travail. Et la dégradation des conditions de travail est aujourd'hui une évidence. Il n'y a pas débat, souligne l'économiste Thomas Coutreau dans un article écrit par Anne Rodier. Et oups, excusez-moi. Une évidence qui constitue une menace pour la santé publique. Voilà par quoi commence l'article. Et de toute l'économie et qui affecte au passage la productivité et les comptes sociaux. Le coût moyen du désengagement des employés était de 10 070 euros, on parle tout de suite argent, par an et par salarié en 2022, suivant un baromètre annuel du cabinet Mozart Consulting. C'est chantant ça, Mozart. Bref, la même année, le coût des mauvaises conditions de travail sur le financement de la branche accident du travail maladie professionnelle de l'assurance maladie est de 11,7 milliards pour les prestations nettes, précise Madame Biggie, Metzelig Biggie, chercheuse affiliée au Centre d'études de l'emploi et du travail. Le montant des indemnités journalières pour maladie et salariés a augmenté 12% en 10 ans, selon la Caisse nationale d'assurance maladie. À tout le moins, les conditions de travail ne s'améliorent plus depuis une décennie. S'agissant des accidents de travail, après une forte baisse d'un tiers entre 1950 et 2010, on constate une stagnation autour de 650 000 par an, précise l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. C'est un triste bilan de l'environnement de travail qui s'est aggravé depuis 2017 avec une augmentation de la pénibilité et des risques psychosociaux. Le nombre d'assurés partis en retraite ayant acquis au moins un point de pénibilité sur le compte professionnel de prévention au cours de leur carrière est en constante progression. Il est passé de 6 610 en 2016 à 21 380 en 2021, souligné en mars le Conseil d'orientation des retraites, alors même que tous les facteurs de pénibilité ne sont pas pris en compte par ce dispositif. Alors, Le baromètre publié par le cabinet Empreinte Humaine, réalisé auprès de 2000 salariés et publié en novembre, révèle que 48% des salariés sont en détresse psychologique, ce qui fait beaucoup quand même. 7 sur 10 affirment que cette situation est due à leur activité professionnelle. Et tous les indicateurs de santé mentale que nous mesurons depuis 2020 se dégradent, alerte Christophe Nguyen, sociologue du travail et cofondateur du cabinet. Plus surprenant encore, la comparaison internationale n'est pas à l'avantage de la France. Selon les enquêtes européennes de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, Eurofound, 39% des travailleurs français déclaraient en 2021 que leur santé était à risque du fait de leur activité, soit 6 points de plus que la moyenne des travailleurs européens, qui est à 33%. Si on regarde un peu les graphiques de la deuxième page de leur enquête, on a des volumes d'indemnités journalières avant la pandémie de Covid-19 avec une base 100 en 2010 qui arrive. Ce qui est remarquable, c'est que la branche maladie, elle est toujours au-dessus de la branche accident du travail, sauf à partir de à peu près c'est 2018 où les sommes versées au titre d'accident du travail, ça arrive à 116,5, et les sommes versées pour la maladie tout court, c'est 111,9. On a une évolution du volume d'indemnités journalières de régime général par salarié qui explose sur les accidents du travail, maladies professionnelles. Et par ailleurs, si on compare les accidents de travail dans les entreprises sous-traitantes, pour ne prendre qu'elles, on est à 15,3%, alors que pour l'ensemble des salariés, c'est 10%. Autrement dit, il y a un truc qui se passe au niveau des entreprises sous-traitantes. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'organisation du travail ? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a un transfert, il y a une mise au travail par la sous-traitance qui a été conduite par les donneurs d'ordre, qui ont externalisé le travail pénible et dangereux. Et il y a eu un transfert des risques physiques aux plus petits sous-traitants et des risques organisationnels aux plus gros. Pour les entreprises donneurs d'ordre, c'est un moyen de subordination et de contrôle de la main-d'œuvre sans engagement de long terme et de responsabilité en droit, poursuivent des économistes. Il y a eu une restructuration des usines en Europe de l'Ouest qui s'est accompagnée de nouveaux impératifs financiers de performance, ce qui s'est traduit par une révolution dans l'organisation du travail avec l'introduction progressive de méthodes venues du Japon, comme le Lean, qui promettait d'améliorer la productivité par une gestion du juste à temps en donnant plus d'autonomie aux salariés. Alors ça s'est bien réalisé en Suède par exemple, mais en France le scénario qui s'est matérialisé dans le secteur automobile puis dans l'aéronautique à partir des années 2000 a été tout autre. Le spécialiste Michelin, de pneumatique Michelin, en a fait l'expérience avec le Michelin Manufacturing Way et a constaté la démotivation parmi ses salariés avec des ouvriers et des managers qui se sentent pris dans un étau de contraintes et le font savoir. Il y a eu également la chasse au gaspillage par le Lean, appliquée dans une organisation hiérarchique verticale et qui a introduit de fait de nouvelles pénibilités avec une absence d'écoute des salariés vécue comme une perte de reconnaissance ou pis comme du mépris et une intensification du contrôle avec toujours plus d'indicateurs et de reporting, synonyme de stress accru. Dans une des entreprises, un cadre a estimé qu'il devait suivre environ 200 indicateurs pour gérer l'activité de son département, rapporte l'économiste Jérôme Gauthier dans son analyse du Lean à la française dans le secteur aéronautique pour le projet Que sait-on du travail de Sciences Po. Donc la pénibilité du travail des entreprises sous-traitantes, elle touche l'ensemble des secteurs de l'économie et suivant le dernier bilan en mars par la DARES, 27% des salariés travaillaient en 2019 dans un établissement preneur d'ordre, avec de très fortes disparités selon les secteurs. C'est presque un salarié sur deux dans le transport, 48%, la communication, 43%, La construction, 65%. Le recours à sous-traitance est ainsi courant sur les chantiers, lieux caractérisés par un niveau élevé de risque professionnel, travail en horaire décalé, port de charges lourdes. Alors, il cite le cas du Grand Paris Express et de leur chantier, avec des grands groupes de génie civil et d'aménagement qui s'appuient sur un vaste ensemble d'entreprises sous-traitantes pour la préparation du béton, le montage d'échafaudage, la pose des câbles et du carrelage, ou encore nettoyage des bases-vies. Celle qui en parle, c'est la sociologue des organisations Gwenaëlle Roth dans « Travailler au chantier », un ouvrage paru en novembre chez Hermann. Il y a une accélération du tempo. Elle décrit, donc Gwenaëlle Roth, elle décrit comment la sous-traitance même organisée est source de tensions et de dangers. Par exemple, lors de brusques accélérations combinant stress et jouissance de faire, ou lors de la cohabitation d'activités différentes au même moment et au même endroit qui s'imposent dans les derniers jours, par exemple, lorsque sur le chantier de prolongement du métro, des opérations de descente de matériel ont été réalisées au-dessus d'une équipe d'ouvriers installant des voies. Bon, voilà. La multiplicité des statuts d'emploi provoque quant à elle un affaissement du contrôle hiérarchique et du collectif de travail, avec un soupçon de fraude permanent qui pèse sur le prestataire, qui est toujours désigné comme le premier coupable par le donneur d'ordre en cas d'incident. Donc, il y a multiplicité des statuts d'emploi, une accentuation des contraintes temporelles qui est majeure dans l'explosion des risques psychosociaux. Suivant là encore le baromètre du cabinet Empreinte Humaine, 20% des arrêts maladie sont pris pour récupérer d'un travail trop intense. 6 salariés sur 10 affirment que les projets transversaux, qui ne sont pas dans leur cœur de métier, leur prennent de plus en plus de temps. L'ergonome Serge Volkoff explique cette dégradation par rapport au temps de travail dans le travail. Dès 2015, dans un rapport de recherche signé avec son homologue du CNRS Corinne Godard sur la soutenabilité du travail, ils définissent alors le modèle de la hâte, consistant pour les salariés à répondre aux attentes d'adaptation et de réactivité permanente qui ont terriblement augmenté avec l'accélération du tempo des changements dans les entreprises. Alors, il peut s'agir des EHPAD qui en viennent presque à regretter la période liée à la crise du Covid.
Tu plaisantes ou quoi ?
Non, je ne plaisante pas, c'est ce qu'ils indiquent. Je peux développer.
De toute façon, dans les EHPAD, tout ce qu'ils attendent, c'est que tu crèves le plus vite. Faut le dire, hein. T'es vieux,
disons, il y a une espérance de vie courte.
Oh, c'est horrible. On va tous finir comme ça. En EHPAD, j'espère pas, franchement, parce que vraiment, ça serait vraiment.
Ce qui s'est passé dans les EHPAD, je pourrais parler un petit peu. Il y avait l'ARS qui avait. Il s'agit d'un établissement de la région de Laval dont la directrice s'exprime. Et elle dit l'ARS nous avait accordé une aide-soignante de plus. On pouvait se répartir les résidents et les sortir dans le jardin. Ce qu'on ne peut plus faire aujourd'hui, on est revenu aux modalités ante avec des effectifs en tension. Et après les circonstances exceptionnelles de la pandémie, la politique de rationalisation a en effet repris son cours et le poste d'aide-soignante a été supprimé. Perdu également la grande autonomie dans l'organisation des soins laissés aux médecins et aux cadres de santé dans un hôpital durant la même période, explique Patrick Castel, auteur de cette recherche et sociologue au Centre de sociologie des organisations. Donc la diffusion du numérique à tous les usages, enfin, a aggravé la situation en permettant de mesurer des tâches qui ne l'étaient pas jusqu'alors, sans tenir compte de la part invisible du travail réel. C'est ça surtout, c'est que ça ne tient pas compte du travail invisible réel. Donc on mesure des tâches, mais on oublie de mesurer un certain nombre de choses dans ces tâches. Donc du genre, les profs font 18 heures de boulot.
Oh, ça va.
Non, mais c'est bon. Je suis désolé, mais j'ai eu des amis qui n'ont cessé de dire pendant toute ma vie professionnelle, ah, mais vous foutez rien, etc. Bon, très bien, mais...
C'est vrai.
Les tâches invisibles, ça existe.
Il est en train de se servir, là.
Là je pense
non, mais...
À l'hôpital, le temps productif ne tient...
C'est vrai.
Non, mais c'est vrai.
Attends, on peut parler des instituteurs, c'est bien pire.
C'est vrai que je reconnais maintenant que vous...
On n'appelle plus ça des instituteurs. Excusez-moi, messieurs, professeurs des écoles.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, C'est vrai que vous avez affaire à des écoliers, des élèves, des lycéens, collégiens complètement psychopathes
non,
qui veulent vous tuer. Et en EHPAD,
non, mais ça, c'est une exception.
Et en EHPAD, maintenant.
Parce que c'est vrai que c'est pas une exception.
Et en EHPAD, on a affaire à des aides-soignantes et infirmières qui veulent juste se débarrasser.
N'exagère pas.
Se débarrasser de leur.
J'étais dans un article sérieux, jeune homme, de leur
pensionnaire.
Ah oui.
Non, mais si on se débarrasse trop, il faut quand même bien mesurer le rythme. Parce
non,
que sinon,
mais
il y a des chambres vides.
C'est que ça rapporte, hein,
vides,
ça rapporte.
Ça rapporte rien.
Ça
donc
rapporte.
Il faut que les chambres soient pleines.
Ça fait du fric.
Oui,
tu
oui.
les nourris avec deux patates et un brocoli.
Ça marche. Oui.
Ça marche.
Ah, c'est beaucoup, bon. Peut-être.
Un cacheton ou deux pour les tuer.
On lui casse son thème.
Je continue sur l'hôpital.
Voilà,
je tiens.
Vas-y, Serge.
J'allais dire aussi pour les EHPAD, c'est énormément cher, c'est beaucoup trop cher.
Oui, exactement.
Trop cher.
Exactement.
C'est honteux. Oui.
C'est honteux.
Ouais. Et en plus, on n'a pas la qualité du tout.
Non, pas du tout. C'est un mouroir. Vas-y, il les anesthésie, il les dégage. Il faudrait quand même que tous ces gens arrêtent de nous pipoter, de nous faire croire que c'est une mort douce. Oui, c'est une mort très douce, à coups de coups de médicaments dans les seringues la nuit.
Hop, oui.
Ah ouais, vas-y.
Mais attends,
on lui a cassé son article.
Soit sur ce sujet-là, soit tu gardes tes parents chez toi et tu vis en famille dans des appartements assez grands pour pouvoir le faire, ce qui n'est pas toujours le cas, en tout cas à Paris.
Mais sinon, oui.
Soit tu as le problème des personnes âgées qui deviennent de plus en plus invalides. Et donc,
Et puis tu as
une évolution de société.
Tu as des connasses qui s'en occupent et qui veulent juste se débarrasser des gens. Allez, hop.
Non, ça se passe
non,
pas.
Non, mais.
Ça se passe pas comme ça du tout. Non, on se débarrasse pas.
Enfin, si on se débarrasse des gens, regarde dans la rue, ils meurent comme des mouches.
Ça pourra peut-être t'arriver, tu verras ce que ça donne.
Non, moi je me suis.
Dans ta famille, pas toi, mais dans ta famille.
Moi, je compte me suicider. Donc,
non, mais je ne parlais pas de toi, je parle de gens.
Moi,
dans
je
ta
compte.
Famille.
Moi, je vais choisir ma mort et je me suiciderai. Comme ça, au moins, ce sera réglé. J'aurai pas une connasse qui me dira je te torche pas le cul et je te donne pas à manger. Dans une chambre surchauffée.
Mais ça, c'est de la maltraitance. Ils font très attention dans les hôpitaux comme
c'est
dans les
maisons
de retraite à tout ce qui est maltraitance.
Il y a eu
des gens.
Il y a eu un nombre incroyable de scandales d'EHPAD ces dernières années.
Il y a
années.
Un nombre incroyable.
Arrête, Yves, de nous dire ça. Quoi.
Mais ça représente très peu de gens impliqués par rapport au nombre de gens qui
vivent le suicide.
Je suis désolé de le dire.
Suicidez-vous.
Je continue mon article, donc contre vents et marées. À l'hôpital, le temps productif ne tient compte que du temps où le personnel est auprès du patient. En étant guidé par des appareils, attention à ne pas perdre notre humanité. Alerte Frédéric.
Ah bah oui, alerte humanité.
Le président de la fédération. Non mais attends. Tu vois les infirmières dans les hôpitaux, elles ont maintenant tout un ordinateur sous la main, elles sont en train de lire les paramètres sanguins, etc. Et en plus, il faut qu'elles se délaissent de tout cet attirail scientifique, qu'elles font un sourire aux patients qu'elles ont. Enfin, et ben c'est une force, une sacrée force.
Ben oui, c'est ça. Vas-y, pas à moi, s'il te plaît.
C'est sûr.
Pas à moi, s'il te plaît.
Je l'ai vu.
Moi je l'ai vécu, alors
oui, d'accord.
On était dans le même endroit.
Non mais d'accord, mais ce qui compte le plus néanmoins, enfin, il n'y a peut-être pas un qui compte le plus, mais elles sont absorbées par des tâches qu'elles n'avaient pas à faire avant, et cette surveillance, attends, quand on voit des sortes de sapins de Noël avec une dizaine de tubes, bon bref, elles sont des signaux numériques qui se déclenchent dès qu'il y a un tube qui est vide, et tous les malades qu'il y a.
Bah, je sais de quoi tu parles. Hein.
C'est extrêmement, extrêmement dense.
J'étais dans ce cas-là.
C'est quand même un petit changement de leur profession par rapport à ma tante, par exemple, qui était infirmière dans les années 1970. Mmh. Et c'est très différent.
Je te rappelle que j'étais en réanimation.
Mais je parle pas forcément de toi.
J'étais en réanimation, donc c'est normal que tu aies un sapin de Noël branché à toi.
Même quand c'est pas Noël.
Surtout que c'était le 25.
Bah si, c'était Noël, c'était Noël.
En plus, c'était Noël. Oui, oui, je me rappelle.
Et en plus, c'était Noël. Réclamé pour Noël. Le jour de l'an.
Ça tombait pile.
Autre, autre exemple, celui de l'aéronautique, qui suscitera peut-être moins de sarcasme. Un secteur au sein duquel les managers de proximité bricolent pour ajuster l'organisation en fonction des aléas quand l'effectif prévu correspond, ne correspond plus aux besoins réels.
Tu parles des pilotes.
Pour pallier ce décalage, les encadrants resserrent les plannings, recouvrent, il n'y a pas que les pilotes, recouvrent des tâches, font courir les agents, ne respectent plus les temps de pause, la préparation, etc. Bref, ils reportent l'intensité de leur travail sur celui des agents, rapportent Corinne Godard, Serge Folkoff, Lucie Reboul et Catherine Delgoulet dans une enquête « L'activité de médiation des encadrants de proximité » publié en janvier. Il y a également le management algorithmique qui constitue une nouvelle source de stress. Le rythme de travail est de plus en plus déterminé par des facteurs exogènes, c'est-à-dire des cadences à tenir, des délais stricts à respecter, des demandes à satisfaire immédiatement, des files d'attente à gérer, des interruptions fréquentes pour prendre en charge les tâches les plus urgentes, décrit le sociologue Arnaud Mias. Et la politique, enfin, n'est pas étrangère à la dégradation des conditions de travail. La qualité de l'emploi et du travail peut être directement influencée par les institutions et les politiques nationales, c'est-à-dire les normes, le droit du travail, la protection de l'emploi, le droit syndical, les règles du dialogue
qui
social,
ne sont pas, qui ne sont
les
pas
politiques
respectées,
de formation.
Hein. Rappelle, je rappelle qu'ils ne
rappelle
sont pas respectés.
Des chercheurs au CET dont les noms suivent, Christelle L. Herel, Mathilde Gergoat-Larivière et Malo Mofakami. Les négociations qui doivent débuter sur la qualité de vie au travail vont donner au gouvernement une occasion de prouver que cette influence peut être positive. Voilà, c'est une analyse de Anne Rodier, dont j'ai payé allègrement l'article, et qui a vraiment travaillé son sujet.
Alors, quand tu parles dans un article de algorithme, c'était les prémices de l'intelligence artificielle, alors ? Oui ?
Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça.
En fait, on s'aperçoit que l'intelligence artificielle, elle est déjà en place depuis un petit moment. Mais c'est pas seulement ça. J'avais lu un bouquin de Alain Soupiot, qui décrivait en fait la façon de faire du management au travers les nombres.
Ah oui.
Ce qui m'avait frappé dans son bouquin, c'est qu'il parlait de choses que je connaissais, j'avais pas fait attention. Les objectifs à atteindre quand tu es dans un travail, une feuille d'évaluation, et il va te dire voilà, vous allez atteindre tel objectif, ce qui n'était pas le cas avant. Bon. Oui, ou alors comment on appelle ça, des indicateurs de performance très très développés.
Exactement, j'en ai eu plein au travail de ça.
Dans les ministères, avec des formulations plus ou moins...
Parce que
les gens ne connaissent pas ce qui se passe sur le terrain, ils sont dans leur bureau, et donc il y a sûrement une discussion avant de définir ces indicateurs. Et j'étais sur un qui m'avait semblé bizarre un jour, bon j'avais réagi, mais j'ai jamais eu de retour d'ailleurs, mais bon voilà. Et donc en fait les gens sont encadrés, alors qu'ils avaient avant une certaine liberté pour faire leur travail, ils sont maintenant plus dirigés. Bon, qu'est-ce que j'ai encore à dire le sujet ? Plus d'un quart des salariés français travaillent dans une entreprise sous-traitante en 2019. Donc on a vu que ces entreprises sous-traitantes, elles avaient un pourcentage d'accidents du travail de 15% contre 10% dans la population complète.
Ah oui, c'est élevé quand même.
Qu'est-ce que j'ai encore ? J'ai les risques physiques. Alors il y a la moyenne européenne, et puis il compare la France, l'Allemagne, l'Italie, etc. Et nous, on est à plus 17 points par rapport à la moyenne européenne, tandis que l'Allemagne est à moins 7, l'Italie moins 0,9, la Suède moins 2,2, le Royaume-Uni 8,3 par rapport à la moyenne européenne. Donc les risques physiques liés au travail...
Nous, la France, de toute façon, on est en train de péter tous les critères de tout.
Sont 17%
supérieurs... La France est en train de sombrer dans tout.
Non, là, je suis en train de cibler des trucs qui sont moyens, donc on va y remédier. Sont 17% supérieurs à la moyenne européenne, alors qu'ils sont 7,3 inférieurs en Allemagne. L'intensité du travail en France, je vais vous citer, en France, par rapport à la moyenne européenne, le travail est 4,1% plus intense en France qu'en moyenne en Europe. En Allemagne, c'est 1,7%. 1,4%, en Italie, moins 1,4%, mais en Suède, c'est 7,4%, et au Royaume-Uni, qui n'est plus dans l'Europe, hein, 9,8%. Mais ça, ça se base sur une enquête téléphonique, donc j'ai hésité à en parler. Pour moi, ça n'a aucune valeur. Bon, enfin bon, c'est mon problème. Hein.
Ah bah c'est-à-dire que tu nous l'as fait partager.
C'est-à-dire que les échantillons ne sont pas vraiment au hasard, puisqu'il faut déjà avoir le téléphone, les libres à cette heure-là, etc. Bon, bref, donc il y a un bien important. Par ailleurs, qu'est-ce qu'on peut dire ? Il y a une stabilisation des horaires de nuit à un niveau élevé. Là, je suis surpris de ce qu'ils disent, parce que j'ai un graphique qui montre qu'en 2013, il y a une brusque chute de la part des professionnels qui travaillent au moins une fois par nuit en pourcentage. Ça passe de 16% en 2013 à 11% la même année. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Actuellement, c'est à 10,8%. Il y a 27% des... Pardon, je vais prendre les choses autrement. Les secteurs les plus concernés par le travail de nuit, en pourcentage des actifs qui travaillent au moins une fois par nuit, eh ben, il y a 27%, si tu veux tambourine, hein. Il y a 27% des hôpitaux publics, il y a 23,6% du transport dans le transport logistique et 18% dans l'hôtellerie et la restauration.
Voilà, c'est une... C'était un petit bruit qui est sorti de mon téléphone portable que j'ai... voilà, tout simplement. Il y a eu un petit bruit de mon téléphone portable.
Il a adoré ça.
Et j'ai un autre article, puisque vous avez l'air d'aimer ma prose. Non pas ma prose, mais ma diction. L'accélération du temps par l'IA. Mais je ne vais pas le lire, ça répond à ma question.
Non, mais des articles, oui, c'est...
Mais alors... il est trop court pour que je le dise.
On rit, quoi, ah oui. le temps via l'IA. Peut-être après, non.
Ah, j'ai arrêté.
Je sais pas, mais bon. Henri qui nous proposait une suicide partie, je crois, mais avec musique en plus, non ?
Ouais, exactement.
Oh, c'est superbe ça, oui.
Musique. Radio Libertaire, 89.4, Radio Libertaire de poste. Non.
Radio Show.
Radio Show. Évidemment que je préconise la grande suicide partie, puisque si je me suicide, nous nous suicidons tous ensemble. Et je pense que c'est en très très grande voie. Et ce dont je vais parler maintenant va certainement nous amener vers le grand suicide général. La Cour suprême russe, donc en gros c'est Poutine, a banni le mouvement LGBT international comme étant un mouvement criminel, en gros. Un
mouvement dont je n'ai pas connaissance qu'il existe entre nous.
Bon. Si Poutine dit ça, en gros, c'est pour, de toutes les façons, cibler l'Occident décadent que nous sommes, nous, l'Europe, les États-Unis, puis tous leurs alliés, c'est-à-dire tous les pays faisant partie de toute ce conglomérat étant tolérant envers l'homosexualité, qui comprend un grand nombre de pays, très peu de pays finalement face au grand nombre de pays qui criminalisent l'homosexualité. Donc il bannit le mouvement LGBT international. Donc comme je le dis, c'est une attaque non dissimulée contre l'Occident dégénéré et décadent, et en même temps c'est une attaque dans ses propres frontières, la Russie, où évidemment les gays hommes et femmes sont criminalisés à l'intérieur du pays, avec des descentes dans les bars, les boîtes, les saunas, avec remise d'un passeport. Et d'ailleurs, il a demandé, il a fait une extension récemment, a-t-on appris, à tous les Yves confirme avec un article, à tous les citoyens russes, pas seulement les homosexuels, présenter et remettre leur passeport.
Pour ne pas qu'ils s'enfuient de Russie.
Moi, j'ai un article du 14 décembre 2023 titré « Des millions de Russes sommés de confier leur passeport aux autorités ». Alors, je me dis... La mesure concerne notamment les hommes convoqués dans le cadre de la mobilisation militaire « partielle », entre guillemets. Et donc, depuis le lundi 11 décembre, des millions de Russes dont la sortie du territoire est déjà soumise à des restrictions ont obligation de confier d'eux-mêmes leur passeport aux autorités qui se chargent de la conservation du document.
C'est bon.
Les personnes concernées par cette ordonnance adoptée le 22 novembre ont désormais 5 jours pour se conformer à cette injonction, même si aucune responsabilité pénale n'est prévue pour ceux qui ne le feraient pas.
Et donc cet article donc de la Cour suprême concernant les homosexuels, lui, date du 30 novembre, et depuis, et certainement juste avant, puisqu'on a les infos après, tous les homosexuels, les gays arrêtés dans tous ces endroits, identifiés comme étant barboîtes, etc., lieux de rencontre, étaient sommés de présenter une pièce d'identité aux représentants de la loi. Donc, on voit très bien que c'est une attaque contre les droits humains dits internationaux, tout simplement aussi contre les droits des personnes homosexuelles, enfin gays. Je voudrais faire plusieurs parallèles là dans ce que je vais dire. Récemment, dans un article vu l'Ouganda, qui vient d'être épinglé pour également Ouganda, pays d'Afrique, pour ceux qui ne le savent pas, vient d'être épinglé également pour des lois très restrictives envers leurs citoyens dits homosexuels gays. Et donc, ils ont passé des lois extrêmement... Ou ils ont des lois extrêmement restrictives, punitives, etc. Et ils ont... Il y a eu un article que j'ai pas sous la main, mais que j'ai en tête, où il conspuait les États-Unis quant à l'aide que les États-Unis pouvaient apporter à certains pays d'Afrique et l'Ouganda, nous faisant un petit, comment, une petite source complotiste. On dit tout simplement que les États-Unis, couplaient leurs aides économiques à certains pays d'Afrique avec
le respect d'un certain nombre
un volet incluant un certain respect de certaines lois concernant certaines populations, dont les populations LGBT. Et donc l'Ouganda et les États-Unis disaient qu'ils allaient restreindre cela à l'obtention de visa pour la pour les ressortissants ougandais, etc. Et le gouvernement ougandais a répondu en disant que c'était que les aides économiques donc étaient corrélées à ce fameux agenda LGBT que l'Occident, que les États-Unis voulaient imposer à l'Afrique. Donc là, on retrouve un discours concomitant aux Russes. Et donc, ce qui m'amène en parallèle à ressortir un article du Canard enchaîné concernant Vladimir Poutine, qui, pendant ce temps-là, lui, n'a aucun problème à libérer certains prisonniers de ses prisons, prisonniers emprisonnés pour, excusez-moi la redondance, hein, mais prisonniers emprisonnés pour des raisons extrêmement sérieuses.
Oui.
En échange d'une présence sur le front de la guerre avec l'Ukraine, il a libéré des tollards.
Oui, c'est ce qu'il avait prévu de faire.
Et comme prévu dans leur contrat, deux tollards russes, ex-condamnés, je lis l'article du Canard, ex-condamnés à mort, se retrouvent libres après 6 mois de service sur le front ukrainien. On a les noms, ils ont tout. Hein. Denis Gorin avait été condamné à 22 ans. Alors, c'est vraiment peu, hein. Excusez-moi du peu, mais 22 ans de prison pour cannibalisme, gracié par Poutine. Attendez, Nicolas Ogolbiak a 20 ans pour des crimes cannibales et satanistes. Nicolas Ogolbiak, il avait assassiné et démembré 4 adolescents, puis manger une partie des corps, comme le rapporte le Figaro dans un article du 25 novembre. Aux citoyens effrayés, Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a expliqué la dialectique tranchante du poutinisme. Les personnes condamnées, y compris pour des crimes graves, peuvent se racheter par le sang. Affûté, n'est-ce pas ? Voilà.
Donc, en plus, on leur a donné un quart de manger, parce que si on enlève les passeports aux Russes, d'une part, et qu'on remet en liberté des cannibales, C'est leur garde-manger, quoi. Les 200 millions de Russes, ça devient le garde-manger de quelques gagnants. C'est sympa. Vive, vive.
Et je bravo, n'ai pas, bravo. Je n'ai pas fini. Ah, donc, pendant ce temps-là, des soldats mobilisés. Alors, ça se passe pas aussi bien en Russie, comme voudrait dire Poutine. On sait très bien que ça se passe pas aussi formidablement bien que ça. Comme chez nous, tout se passe pas formidablement. C'est évidemment de la propagande. Pendant ce temps-là, les soldats mobilisés, contre l'Ukraine se plaignent de ne pas avoir de permission pour revoir leurs proches. Depuis 14 mois, ils accomplissent leur travail de militaires professionnels indéfiniment et sans remplacement, constatent avec des milliers d'autres épouses une abonnée au réseau Telegram, et c'est une info de France Info du 26 novembre. Donc on voit bien que c'est deux poids, deux mesures, du cannibale tueur d'adolescents, et pas qu'un seul adolescent, hein, plusieurs. Ça vaut largement quelques mecs qui s'enculent. Ça, voilà. Donc, l'homophobie internationale a de très très beaux jours devant elle. Déjà qu'en Afrique, ils étaient amplement homophobes, sans qu'on les pousse. Maintenant qu'il y a la Russie, on a une internationale homophobe à l'œuvre, et ce qui est vraiment extrêmement inquiétant pour les homosexuels, tout simplement. Alors, je ne sais pas comment vont faire les homosexuels russes qui maintenant ont droit à des descentes dans des bars, etc. Je ne sais pas comment ils vont faire, je ne sais pas comment ils vont vivre. Et j'aimerais encore mettre ça en parallèle avec c'est une sorte de parallèle avec un article. Terrorisme aux racines de la violence masculine. C'est un article de Sylvie Chocron, directrice de recherche au CNRS, au laboratoire de psychologie de la perception, Université Paris-Descartes et Fondation ophtalmologique Rothschild, et qui dit entre autres, je vais lire des extraits, je ne suis pas forcément d'accord. Il y a un fait récurrent qui a forcément dû attirer votre attention, c'est que la violence physique, qu'elle soit individuelle ou collective, comme les agressions, les viols, les guerres, les conflits armés, les génocides ou le terrorisme, est un phénomène quasi essentiellement masculin. Et pourtant, la question du genre est largement ignorée dans les recherches sur la violence. Récemment, une femme, ce n'est peut-être pas un hasard, chercheuse à l'université de Munich en Allemagne, Anne-Maria Moller-Lenkuller, a tenté de comprendre pourquoi le terrorisme, qu'il soit perpétué de manière isolée ou en groupe, était surtout une affaire d'hommes. Alors, je passe sur le côté chez les hommes terroristes et le discours politique ou religieux fondamentaliste qui les convainc que commettre des attentats les rend plus puissants. Mais ce qui va m'intéresser le plus, c'est pour ces fondamentalistes, la masculinité fragilisée par la culture occidentale, la laïcité, les femmes, la mondialisation, la modernité pourraient être restaurées, voire transformées en une hyper-masculinité destructrice par des actes d'une violence extrême, à même d'ériger d'une violence extrême attends, par des actes d'une violence extrême, a même dirigé leurs auteurs en héros, vengeurs, diriez, au nom d'un dieu ou d'un objectif qui les dépasse. Mais qu'en est-il du cerveau des hommes ? Serait-il organisé d'une manière différente de celui des femmes, les prédisposant à agir de manière violente ? Là encore, une autre femme chercheuse, Debra Nieoff de l'Université de Pennsylvanie, montre qu'il existe bien des différences tant morphologiques que fonctionnelles entre les deux sexes dans les régions cérébrales contrôlant la violence. L'amygdale cérébrale nous permettant de détecter un danger et de savoir si nous allons nous battre contre celui-ci ou fuir. L'amygdale est plus petite chez les femmes et la façon dont elle s'active face au danger dépend du sexe du sujet. Quant au cortex préfrontal, ventromédian et au cortex orbitofrontal qui nous permettent d'évaluer et de contrôler nos réactions, c'est l'inverse, il est plus développé chez les femmes. Et là, je suis désolé, mais il y a un problème. Les femmes sont et ont toujours été les victimes, que ce soit des hommes, des serial killers, en temps de guerre. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette étude. Je suis d'accord sur les hommes, je ne suis pas d'accord sur les femmes. Ce n'est pas vrai. Les femmes n'ont pas conscience du danger. C'est faux. C'est faux. Pour moi, c'est faux. Face à une scène violente, les mêmes activations cérébrales sont observées chez les hommes et les femmes. Mais ces derniers, on constate en plus une activation du cortex singulaire postérieur spécialisé dans l'analyse émotionnelle de la situation de l'insula antérieure impliquée dans l'empathie.
Oui, ben ça veut dire qu'elles analysent, nous, là où on réagit avec émotion.
Non, non, je suis désolé.
Ok, t'es pas d'accord avec ça.
Je suis désolé. Elles disent ainsi, le dernier paragraphe, ainsi, alors que les hommes tentent de contrôler leurs mauvaises réponses, les femmes, elles, essaient de trouver la meilleure option. À la vue de ces résultats, on ne saurait que conseiller aux hommes de s'inspirer des femmes pour sauver l'humanité, mais qui sait s'il n'y aurait pas une menace pour leur masculinité. Je trouve que je ne comprends pas cette étude. Je ne comprends pas. Elle commence bien en parlant des hommes et en parlant de leur violence et de la violence des hommes. Mais je ne comprends pas ce qui concerne les femmes. Ce sont les premières victimes des meurtres intrafamiliaux.
Non, mais
les premières victimes de viol. Ce sont les premières victimes des serial killers. Ce sont les victimes, tu n'as qu'à étudier, tu n'as qu'à suivre tous les true crime de toute la... tu n'as qu'à écouter tout ce qui concerne le true crime, les femmes sont les premières victimes. Qu'est-ce que cette... Elle vient te chercher l'amygdale. L'amygdale, je ne sais trop quoi.
Là, c'est une chercheuse.
C'est une chercheuse à la con, quoi.
Ouais, je suis pas d'accord.
Ah, moi, je suis d'accord, c'est une chercheuse à la con. Excuse-moi, c'est une chercheuse à la con. C'est une chercheuse à la con. Si cette femme a... Si cette femme, cette chercheuse avait raison, il n'y aurait pas autant de femmes victimes de serial killers, de tueurs. Excuse-moi. Elles auraient conscience du danger, bien que, moult situations font que... voilà. Mais je ne sais pas. Cette étude complètement débile. Désolé.
Tu penses qu'il manque des critères, quoi, dans son... Pas forcément qu'elle fasse, elle fait peut-être pas des mauvaises réflexions sur les données qu'elle a, mais elle manque des critères, non ?
Elle commence par faire de très très bonnes réflexions sur l'homme, sur cette fameuse amygdale qui serait plus petite chez les femmes, l'amygdale cérébrale qui permet de détecter un danger, de savoir si...
Je ne sais pas, il faudrait que ce soit toute une équipe quand même.
L'amygdale est plus petite chez les femmes et la façon dont elle s'active face à un danger dépendant du sexe. Quant au cortex préfrontal, ventromédian et au cortex orbitofrontal qui nous permet d'évaluer et de contrôler nos réactions, c'est l'inverse, il est plus développé chez les femmes.
Ça, c'est un fait. Ensuite, elle interprète. Bon, mais le fait, il est là. Elle mesure les tailles, elle regarde. Ensuite, l'interprétation. Tu ne sois pas d'accord avec l'interprétation, c'est possible. Mais il y a un fait, c'est que les femmes n'ont pas les mêmes poids dans ce que tu as raconté. Bon.
Je suis désolé, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas avec la réalité.
Bah, t'es pas d'accord avec son interprétation, c'est tout.
Moi, je suis pas d'accord avec cette réalité. Je regarde les faits, les histoires criminelles, etc. Et aussi des années 60-70 où les jeunes femmes...
Il n'y a pas que ça. Dans la violence des hommes, il y a aussi le déclenchement des guerres.
Hein. Non, mais je te parle pas du déclenchement des guerres. Là, je te parle de la violence.
Ah, bah, son article, c'est pas seulement la violence conjugale, c'est la violence chez les hommes.
C'est la violence chez les hommes. Et là, je suis bien d'accord, les hommes sont violents, beaucoup plus que les femmes. Et ils ont quelque chose en plus qu'il n'y a pas chez les femmes. Ça, c'est archi clair.
C'est quoi ?
C'est très clair. Il y a quelque chose chez les hommes qu'il n'y a pas chez les femmes. Il y a un truc au-dessus.
Bah, j'ai l'impression...
Je m'en étais aperçu.
Je fais une référence, par exemple, à la chanson de Renaud, Miss Maggie. Aucune femme n'a sur la terre... Je sais plus exactement. En tout cas, il dit des femmes que... Aucune femme ne fait des... Comment dire... Je me rappelle plus des paroles de la chanson. C'était la chanson Miss Maggie. Et... il dit qu'aucune femme ne fait de mal à... Enfin, il n'y a aucune femme qui fait la guerre, des choses comme ça, en fait. Voilà, par exemple. Est-ce que tu vois, tu connais la chanson
Maggie? Ouais, mais là, on est concernant c'est Margaret Thatcher. On est dans un contexte politique. Là, je parle dans un contexte social, criminogène, etc. Qu'est-ce qu'il y a ? Il a déjà lu cet article, me dit-il. Ah d'accord, tu as déjà lu cet article. Ben moi, je suis pas d'accord avec l'article.
Bon, très bien.
Je ne pense pas que... voilà. C'est tout. Je pense qu'il y a un léger problème. On s'entend, hein, je ne veux rien enlever aux femmes.
Oui.
C'est pas ce que je veux dire. Je veux dire par là qu'il y a... Oui. Il y a juste un petit souci, quoi. Oui. C'est-à-dire que les hommes sont beaucoup plus prédateurs qu'est-ce qu'on peut prétendre. Les hommes sont... La gente masculine est une gente... Ce sont des prédateurs.
Bon.
Quoi ? Tu n'es pas d'accord ?
il faudrait parler d'un bouquin qui s'appelle Masculin-féminin ou féminin-masculin de Françoise L'Héritier. Il y a deux tomes, elle raconte des choses qui sont hyper intéressantes et donc je ne suis pas capable de parler sans préparation.
Ah oui, je me souviens de ce livre.
Non mais ça veut dire que l'article, effectivement, je me souviens, tu l'avais lu déjà à l'antenne, mais moi-même, tu te rappelles, je t'avais demandé l'article après, parce que je n'ai pas percuté bien tout ce qu'il y avait dans l'article. Henri qui vient super bien de le détailler.
Non,
là,
non, ce que je veux dire par là, c'est que elle
lentement,
dit...
mais et moi, du coup, j'ai...
Là, ce qu'elle veut dire, c'est
je
que
le reçois mieux et
c'est ce que les femmes auraient cette espèce de truc qui ferait qu'elles seraient sensibles à un danger. Oui, et là, c'est là où je dis non. Là, c'est là où je dis non. Pour moi, au vu des statistiques criminelles depuis des dizaines et des dizaines d'années, où ce sont les femmes qui sont principalement les victimes. De d'hommes si elles étaient aussi alertes et conscientes du danger qu'un homme pouvait représenter, bah il y aurait pas autant de victimes femmes. Et alors que tout dit le contraire, les victimes principales ce sont les femmes. Voilà.
Derrière, elle va avoir des questions là-dessus, je pense. Et ce qui est intéressant, c'est de voir quand va sortir un autre article qui.
Mais j'aimerais bien, parce que.
Oui, qui est un peu parallèle à ça, ou qui.
Parce que là, elle nous parle.
Abonde, peut-être. On ne sait pas.
Là, elle nous parle, par exemple, il s'agit bien de questions bien précises.
Oui.
Il s'agit de cette fameuse amygdale, et qui montrerait que. Cette amygdale cérébrale permettant de détecter un danger. L'amygdale cérébrale nous permet de détecter un danger, et si nous allons nous battre contre celui-ci ou fuir.
Oui, alors est-ce que tout cela est bien détaillé dans notre cerveau? Quoique maintenant, on sait très bien.
Il est plus
avoir des personnes,
il est plus développé chez les femmes.
Oui, leur donner des.
Et l'histoire nous
des informations et voir comment le cerveau réagit au niveau électrique, au niveau qu'est-ce qu'il active quand il y a ça, qu'est-ce que chez les hommes comment ça se passe, chez les femmes c'est peut-être autre chose vraiment, c'est peut-être fondé carrément maintenant, je pense d'ailleurs, mais. On aimerait que ça soit une équipe aussi qui travaille dessus, qu'elle ne soit pas toute seule.
Bah, j'aimerais bien savoir la suite, quoi.
Oui, il y a sans doute
une suite. Qu'est-ce que...
Ouais,
ouais. Parce que elle finit quand même par dire ainsi, alors que les hommes tentent de contrôler leurs mauvaises réponses, ce qui n'est pas sûr, les femmes, elles, essaient de trouver la meilleure option. Je ne sais pas. À la vue de ces résultats, on ne saurait que conseiller aux hommes de s'inspirer des femmes pour sauver l'humanité, mais qui sait s'ils ne verraient pas une menace pour leur masculinité.
Moi, j'ai trouvé que c'était un article qui avait un fond intéressant au niveau des mesures physiques et un fond humoristique.
Oui, mais là, on ne plaisante pas, là.
Je suis désolé, il y a un petit aspect humoristique.
Non, la fin
de l'article, c'est un peu d'humour.
Non, c'est
la dernière phrase que tu as citée, on ne saurait conseiller, etc.
Non. Parce que les hommes sont quand même les prédateurs numéro un. Les hommes sont les prédateurs numéro un sur les femmes, les enfants et sur les autres hommes.
Non, mais dans son article, effectivement.
Il faut quand même être clair. Les hommes cis. Hétéros sont les premiers prédateurs sur les femmes, qu'elles soient cis ou homosexuelles, sur les hommes homosexuels ou les autres hommes cis, les autres hommes hétérosexuels ou les enfants, ce sont les premiers prédateurs. Nous, je suis désolé, c'est comme ça. Et cet article me paraît un peu... cette amygdale, je suis désolé, je veux bien que cette amygdale, elle fonctionne comme si, comme ça, chez l'un et chez l'autre de l'autre sexe. Mais en attendant, chez qui elle fonctionne le mieux, c'est quand même chez les prédateurs hétérosexuels. les hommes hétérosexuels. Donc, à un moment donné, cet article, il est un peu, pour moi... Moi, je ne l'ai pas pris comme une blague, cet article-là.
Mais j'ai pas dit que c'était...
Je le trouve étrange. Je le trouve très étrange, cet article. Je le trouve étrange...
Ben, c'est ce qui m'avait amusé.
Moi, je ne le trouve pas amusant.
Oui, parce qu'à la limite, tu vois, un article comme ça, qui est brutal, en fait, qui est brutal, moi, je ne me sens pas... j'ai jamais été violent, moi.
Hein. Non, je parle pas de toi, Géry.
Non, mais j'ai jamais été violent en tant qu'homme, quoi. Pour dire, bah oui, c'est un homme,
attends.
Je ne suis pas... donc, c'est très différent, déjà, à chaque personne. Hein,
Je n'accuse absolument pas tous les hommes hétérosexuels des prédateurs.
Bah oui.
Je n'accuse absolument pas ça. Je ne dis pas. Il y a plein de nuances dans la vie.
Ah oui.
Il y a plein de nuances. Il y a des femmes prédatrices. Oui. Il y a des femmes meurtrières. Il y a des femmes absolument dégueulasses. Il faut être bien clair.
Oui, heureusement que.
Il y a des femmes meurtrières. Ne serait-ce que Monique Olivier, dont on parle, est absolument complice, quoi qu'elle veuille dire sur son rôle. Elle est la complice de son mari. Elle a été l'absolue complice. Elle a servi d'appât. Elle était enceinte. Ça servait d'appât à amener des gamines. Donc maintenant, elle se fait passer pour une espèce. Elle est vieille. Si on la maintient en vie, cette salope, c'est parce qu'il faut qu'elle parle. Il faut qu'elle dise où sont des corps. Il faut qu'elle soulage des familles qui ont besoin de réponses. Et ça, c'est vraiment important. Mais des femmes monstrueuses, il y en a. Et qu'elles soient, lesbiennes ou hétérosexuelles. Et des hommes homosexuels sont aussi monstrueux. Donc, je ne fais pas de distinction dans la monstruosité. Tout le monde y est, pour moi.
Hein. Oui,
il y a des hommes homosexuels. Jeffrey Dahmer était un monstre. Il était gay. Il y a plein de tueurs en série homosexuels. L'adjudant Chanal était un tueur. Il a tué plein de jeunes mecs. C'était un homo. Il a tué plein de jeunes mecs. Il n'y a pas de distinction. Je ne fais pas de distinction. Là, simplement, je réagis à cet article-là. Spécifiquement, et il me semble un peu de biais, tu vois, en disant... les femmes, elles réagissent... Ben non, je suis désolé. Voilà, moi, je réagis à cet article-là. Et je réagis à... C'est aussi en réaction à la monstruosité masculine qui me fait réagir à la monstruosité... de toutes ces lois qui sont en train d'être passées partout dans le monde et de toutes ces intolérances partout dans le monde. Et parce que il me semble que là, dans le monde, c'est en train de devenir comme une espèce de... Enfin, c'est devenir un binarisme, c'est binaire, quoi. C'est... t'es du bon côté, t'es du mauvais côté, je mets la loi là, tu fais partie de ces lois, tu fais pas partie de ces lois. C'est en train de devenir ça, le monde.
Ah, c'est terrible, ça. Oui, oui. Oui.
Et j'étais clair. Ah, je sais pas. Hein.
Oui.
Je sais pas, j'ai pas été... C'est vrai que je suis parti de Poutine et de ces lois... j'allais dire d'exception. Non, c'est pas des lois d'exception. C'est une criminalisation...
Allez, encore, attention. 1, 2, 3.
Je sais pas.
Et voilà. Criminalisation.
Une criminalisation de l'homosexualité qui est en train de déborder partout dans le monde avec l'accusation formelle de l'Occident d'être un Occident dépravé.
C'est, non, c'est inquiétant. Hein. C'est très, très, très inquiétant. Très inquiétant parce que on recule. Apparemment, on recule.
On recule.
Donc,
si tu veux que je t'encule.
Oui.
Et sauf que là, on ne va pas se faire encule.
Voilà.
C'est une criminalisation. C'est l'Occident décadent attaqué par un tas de pays. Et en plus, j'ai oublié de dire, l'Ouganda a fini par dire aux États-Unis, de toutes les façons, on va négocier avec la Chine, au moins chez eux, on sera bien reçu. Mmh. Et quand on sait qu'en Chine, c'est pareil, il n'y a pas encore de loi concernant l'homosexualité, mais il a été clairement dit en Chine que il ne fallait pas, montrer des signes. C'est-à-dire que les stars de cinéma ou de chansons ou de la K-pop ou de la J-pop, de la pop japonaise ou de la pop coréenne, les mecs ne devaient pas être trop féminins.
Ah oui, j'ai suivi cette affaire, effectivement.
T'as suivi, hein. Chine, il fallait pas que l'on montre trop de féminité dans les boys bands ou dans les chanteurs ou les acteurs. Donc, ils n'en sont pas encore venus à promulguer des lois formellement anti-homosexuelles.
Mais ça peut être ressenti déjà comme tel, oui.
Ça peut déjà être déjà un palier, quoi. Ouais, oui. Ça peut déjà être un palier vers quelque chose de criminel, enfin criminogène.
Mmh, d'accord.
Criminalisant.
Oui.
On va dire.
Malgré que tout ça, je pense, c'est quand même l'objectif de très peu de personnes qui malheureusement, eh bien, dirigent des pays
c'est
entiers.
C'est ça. C'est ça.
Voilà. C'est ça le.
Parce que c'est effectivement, on a dans l'humanité, effectivement, dans l'homme, il y a beaucoup de défauts, effectivement, et malheureusement, il y a des défauts et aussi des gens malades qui nous dirigent, voilà. Malheureusement.
Ouais.
Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a des malades un peu partout. Et il suffit qu'il y en ait un quelque part pour que ça soit la catastrophe. Quoi,
mais c'est quand même problématique. Qui s'attaque et s'intéresse principalement à ça, quoi.
Ah oui.
C'est quand même grave.
Ouais.
C'est ça le problème, c'est qu'ils s'intéressent à ça. Ils ne vont pas s'intéresser à autre chose. Ils vont principalement s'intéresser à une forme de sexualité, à une forme de représentation de la masculinité. Et c'est ça qui va les déranger. Le reste va pas les déranger. La corruption va pas les déranger. L'ignominie va pas les déranger.
Et encore,
rien de tout ça ne va les déranger. La perversion ne va pas les déranger. Mais ça va les déranger. C'est quand même incroyable de s'attaquer juste à ce point à l'aube du 21e siècle en 2023. Ça va les déranger.
C'est peut-être...
D'autres problématiques ne vont absolument pas les déranger.
Ben pourquoi ? Parce que eux, ils savent qu'ils sont, ils peuvent passer au travers, tu comprends ?
Oui, mais voilà. Pourquoi est-ce que ça les dérange ?
C'est comme quand ils disent, on ne boit pas d'alcool, voilà. Mais en fait, quand ils font des fêtes...
Pour des raisons politiques, tout simplement, parce qu'on dit une certaine vérité. Quoi.
Mais pourquoi l'homosexualité ou une forme d'androgynie, etc. C'est pas forcément... quand tu vois, par exemple, tous les groupes de K-pop, de pop coréenne, où tous les garçons sont absolument très mignons, presque féminins, où est-ce que ça te dérange ? Où est le problème ?
Il y a un problème.
Ouais. Où se situe le problème ?
Mais je ne dirais pas qu'ils sont féminins. Ils sont habillés de façon voyante. Ils sont habillés de façon
J'aimerais
avec
savoir.
Des attributs qu'on nous on attribue peut-être aux femmes. Sauf que personne ne s'habille comme ça dans la rue. C'est des attributs de vêtements, de scène. Voilà, c'est tout.
Non, mais c'est surtout des gens qui ne sont pas bien dans leur tête, qui sont malades et qui ne veulent pas que les autres soient heureux. Donc,
mais j'aimerais savoir
parce qu'ils savent que eux, s'ils veulent avoir tous ces droits d'être heureux et tout ça, ils vont pouvoir le faire. Voilà, parce qu'ils ont les moyens, ils ont l'argent, ils dirigent. Donc, autres ont les brides. Et les autres ont les brides.
Non, je pense qu'il y a un réel problème avec l'homosexualité. C'est que c'est le pendant total de la masculinité.
Ouais.
C'est le pendant total de la masculinité. Et la masculinité, c'est l'ordre. C'est l'obéissance.
Ouais, d'accord. Je vois.
Et moi, j'aimerais que tous ces gens nous disent clairement. J'aimerais que Poutine sorte un discours clair sur l'homosexualité. Je vais chercher. C'est quoi son discours clair sur l'homosexualité? C'est une dépravation de l'Occident. D'accord. Mais alors, explique-nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça déprave quoi? Il n'y a plus de valeur familiale. Tu ne peux plus contrôler la famille. Tu ne peux plus contrôler les femmes. Tu ne peux plus contrôler les gens.
Oui.
Tu ne peux plus contrôler la société.
Oui.
Les gens font ce qu'ils veulent.
Ben non.
Les femmes font ce qu'elles veulent.
Ben non.
La vérité, elle est là.
Ben non.
Tu ne peux plus rien contrôler parce que tes hommes, ils sont cules, c'est ça. Donc, expliquez-moi, tous ces messieurs-là, Kim Jong-un, Xi Jinping, Poutine et tous les autres, les Ougandais et tout ça, expliquez-moi quelle est la problématique avec l'homosexualité. Ça déferait, dans le sens de défaire leurs codes sociaux.
Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire.
Donc, il y a une problématique. Moi, ça m'apparaît. Là, on a les crapauds. C'est comme si c'était. On était à poursuivre des sorcières.
Ah oui, d'accord.
Des choses malfaisantes qui. Déconstruisent un peu le tissu social du village, sont des êtres marginaux à qui on pourrait apporter une quelconque importance. Et là, il faudrait les détruire. Parce qu'elles détruiraient l'équilibre de l'ordre social.
On peut ajouter même l'équilibre de la nature, parce que ces gens ignorent que dans la nature, les animaux font pareil, mais bon...
Les animaux font pareil, l'homosexualité est totalement et complètement naturelle. Combien de fois il faudra le répéter? Donc, j'aimerais savoir pourquoi... Et pourquoi ces régimes... qui tendent vers le fascisme ou qui sont fascistes, justement, eux, ça les gêne. Ben, c'est simple, c'est des constructions à la con, des vieilles constructions qui sont en vigueur depuis très longtemps. Et apparemment, ben, ça perdure, ça dure.
Et qui sont compréhensibles par un certain nombre de personnes, éventuellement.
C'est-à-dire
qu'en fait, quand tu dis un homosexuel, c'est pas bien, c'est contre nature, etc. Si tu le dis dans un discours officiel auprès de ta population, la population se dira ah bah oui c'est vrai, oui effectivement les homosexuels, oui c'est pas c'est contre nature, etc. Ah oui on va les chasser, on va les tuer, etc. Très bien. Et ça c'est caresser dans le sens du poil.
Oui.
Exactement. Et puis c'est après... ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs qui paraissent mais il y a plein de sujets sur lesquels tu peux dire des choses et des choses qui sont fausses, mais pour que la population soit convaincue, il faut que ça soit de plus en plus répété et encore plus fausse. Voilà.
Répété. Et qu'on stigmatise, et qu'on répète, et qu'on victimise.
Exactement.
Et reste dans le rang. et puis reste dans ta famille, et puis reste correct. Ne sois pas une fille perdue, ne sois pas un garçon perdu, etc., etc., etc. On est vraiment dans... là, il y a le problème, c'est que ce sont des pays entiers qui promulguent oui. des lois comme ça.
Oui.
Et qui criminalisent. Et ça devient très inquiétant. Très, très inquiétant pour la marche du monde.
Oui.
Musique.